avec Hélène Denis.
Lundi 8 septembre 2025, bonjour, belle journée ensoleillée qui s'annonce et belle semaine ensoleillée aussi qui s'annonce. Alors si vous êtes en vacances, profitez-en bien pour nous, mais profitez-en bien pour vous aussi, c'est ce qui compte le plus. Mathieu Tessier devant moi, bonjour Mathieu.
Bonjour Hélène, bonjour tout le monde.
Le week-end s'est bien passé pour vous?
Ben oui, je suis allé pas très loin de votre hood.
Ah
oui? J'ai promené sur l'île Perrault.
Ben, c'était vraiment pas loin. Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir? Mais j'étais pas là, c'est vrai.
Ben, on est allé frapper à votre porte que je connais
pas. Ça n'a pas répondu.
Mais ça n'a pas répondu.
Vous êtes allé aux pommes ou quoi?
Non, non, non. On s'est promené dans des sentiers inconnus, dans une cabane à sucre. Ouais,
vous aimez ça, hein? Vous partirez à l'aventure, mais c'est super, ça.
Oui?
Oui. Alors, l'île Perrault, vous avez trouvé ça beau? Vous avez fait le tour de l'île?
Oui, ben c'est... Oui.
Non, ça se fait assez vite. C'est
pas à pied, en voiture, ouais. Mais oui, oui. C'est une île. C'est la première fois que j'y allais.
Ah oui? Oui. Il y a des beaux coins. Mmh. Êtes-vous allé dans le coin de... pardon, dans le secteur de Sainte-Anne-de-Bellevue qui est tout près de l'île Perrault?
Non.
Sur le bord du canal?
Non.
On non, a vous vraiment... êtes resté sur l'île Perrault.
On a pris la 20 puis on a débarqué.
Il y a Pointe-du-Moulin aussi.
On n'est pas allé, mais on
ben
est passé
la prochaine
par...
fois, oui.
Il y a beaucoup de choses à foire, à foire.
Oui.
À faire.
On peut foirer, mais on peut faire plein d'affaires. Et il est devant moi, ça fait tellement longtemps, on ne s'est pas vu de l'été, et vous étiez pris en France, mais c'est une façon de parler, Louis, à cause de la grève d'Air Canada, là. Vous avez reporté votre retour, vous n'avez pas eu le choix. Bonjour Louis.
Effectivement, les vacances ont été prolongées de 2 semaines inattendues avec la grève d'Air Canada, qui n'est pas complètement réglée. D'ailleurs, j'ai vu cette fin de semaine que c'est encore dans l'actualité et ça va encore s'étirer. Mais en tout cas, oui, moi, j'étais censé partir 3-4 semaines. Ça a prolongé de 2 semaines, bien agréable en famille. Et me voilà de retour.
Vous avez l'air en pleine forme, Louis. Et vous avez préparé, comme d'habitude, des sujets insolites, puisque c'est le thème de votre chronique.
Oui, je vais parler de deux personnes avec des émotions contrastées. Un Canadien d'abord qui, très motivé, a cherché une bague dans une déchetterie. Est-ce que vous feriez ça, vous? Est-ce que vous auriez la motivation?
Ça dépend de la bague.
Oui.
Ça dépend de ce qu'elle vaut sentimentalement et aussi financièrement.
Eh bien, lui a été très motivé et bien lui en a pris. Et une autre histoire en Espagne, une vieille dame, une grand-mère venant de vacances a trouvé des habitants dans sa maison. Et,
les squatteurs.
Des squatteurs, exactement. Et a utilisé un nid de guêpe pour tenter de les faire partir. Voilà, ça a donné un peu de grabuge et je vous raconterai cette histoire aussi.
Et des piqûres aussi, j'imagine.
Oui, effectivement.
Merci Louis. Alors, on se retrouve dans pas trop long. Et on aura aussi Erika Malo qui sera avec nous en studio. Erika Malo qui est coordonnatrice de développement artistique du Théâtre du Rideau Vert et initiatrice de la communauté de pratique en accessibilité universelle dans les arts de la scène. Elle sera avec Marjolaine Gilbert, qui est coordonnatrice de l'accueil et de l'accessibilité universelle à la Maison Théâtre. Toutes les deux viendront nous parler de ce rassemblement festif qui aura lieu le mercredi 10 septembre au Conseil des arts de Montréal. C'est la communauté de pratique en accessibilité universelle dans les arts de la scène qui se mobilise pour inviter tout le monde, les artistes, mais le grand public également à ce rendez-vous important. C'est la 2e édition. Ça va se passer le mercredi 10 septembre de 16h à 19h. Également, elles seront avec nous autour de 10h. Et puis, j'aurai aussi le plaisir de m'entretenir. Elle sera en studio également. Beaucoup de visites en studio aujourd'hui. La comédienne Alice Moreau, qui joue la pièce, dans la pièce de théâtre Les Vacances, qui prendra l'affiche de La Petite Licorne. Parce que vous savez que le théâtre de la Licorne comporte 2 salles. Il y a la grande salle, actuellement on présente Trip de Mathieu Quesnel, et aussi la petite salle où c'est plus intime et où on découvre toutes sortes de belles plumes. Alors, Les Vacances, c'est une pièce qui met en vedette 2 comédiennes. Dont Alice Moreau. Et Alice Moreau viendra nous présenter 7 pièces qui prendra l'affiche de La Petite Licorne le 15 septembre. On a appris la mort de Rick Davis, un des membres fondateurs de Supertramp, claviériste, oui, et aussi une des voix avec Roger Hodgson, évidemment. On aura l'occasion de lui faire nos adieux d'une certaine façon, un groupe qui a été tellement important pour plusieurs personnes. En fin d'émission, Ça n'a pas été évident parce que Rick Davis, oui, a chanté, mais c'est beaucoup Roger Hodgson qui chantait les chansons de Supertramp. Mais Rick Davis était aussi choriste, mais on a trouvé quand même quelques chansons où on l'entend et on vous en proposera une ou en tout cas un extrait d'une des chansons où on entend la voix de Rick Davis qui était plus grave que celle de son partenaire. Et on y va avec Alex Cuba. Une petite chanson ensoleillée pour aller avec cette belle semaine qui nous rappelle que l'été n'est pas fini.
Te mando esta canción que no dice nada, pero va directo a tu corazón. Te mando una razón para que te entregues, vengas a mis brazos, herida de amor. Y cuento las palabras con que esta canción deja volar mi voz buscando tu atención. Son 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son muchas, ya me cansé contar mi desamor. Te mando esta canción que no dice nada, pero va directo a tu corazón. Te mando una razón para que te entregues, vengas a mis brazos, herida de amor. Te mando esta canción que no dice nada, pero va directo a tu corazón. Te mando una razón para que te entregues, vengas a mis brazos, herida de amor. Y cuento las palabras con que esta canción deja volar mi voz buscando tu atención. Son 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son muchas, ya me cansé contar mi desamor. Te mando esta canción que no dice nada, pero va directo a tu corazón, a tu corazón. Boom, boom, disparo yo.
C'est Alex Cuba qui chantait directo.
À la une du Journal de Montréal, eh bien, on a appris en fin de semaine, c'était vendredi, qu'on a appris la mort. Moi, je l'ai appris samedi matin, là, la mort de Ken Dryden qui a été emporté par un cancer 2025. On le voit habillé en gardien de but, lui qui a fait gagner le Canadien plusieurs fois. Tout sur la légende, on aimerait tous être comme lui. Richard Martineau qui dit ça. Le Marc de 22 ans qui interviewait un géant, Marc de Foix, se souvient. Un spécial de 15 pages dans le Journal de Montréal à propos donc de Ken Dryden, un joueur de hockey, un homme qui a fait à peu près tout hein, qui s'est promené du sport à la politique. La politique peut être du sport. Ken Dryden a été vraiment ministre au fédéral. Alors, on en a parlé toute la fin de semaine et ça se poursuit et ça se poursuivra parce qu'on ne l'oubliera pas. Numéro 29, ça nous rappelle notre enfance, notre jeunesse. À 25 ans, il vint la leucémie, miracle québécois de la médecine. Ludovic Tamaro croyait n'avoir que 2 ans à vivre. Il est pourtant en rémission complète de la leucémie grâce à une révolution québécoise, a appris le journal. Alors, je vous lis l'article de Mathieu Robert Sauvé. « Ça m'a sauvé la vie », laisse tomber Ludovic Tamaro, 6 ans après l'intervention à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, atteint d'une forme grave de cancer du sang, la leucémie myéloïde aiguë. Ce jeune homme a reçu le triste diagnostic à l'âge de 18 ans. On me donnait une espérance de vie de 2 ans. Quand ma médecin m'a proposé un traitement expérimental à partir de cellules provenant de sang de cordon, relate au journal l'étudiant en psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Aujourd'hui, âgé de 25 ans, il tient à remercier toutes ses mamans qui ont donné leur cordon. C'est grâce à elles que j'ai pu être soignée. La thérapie cellulaire UM171 a été mise au point par l'hématologue québécois Guy Sauvageau et la chercheuse Anne Marinier. Elle permet une sorte de reconfiguration de l'usine de production du sang, la moelle osseuse, en utilisant une molécule insérée dans des cellules souches qu'on ne trouve que dans le sang du cordon ombilical. Nous procédons d'abord à une chimiothérapie agressive qui neutralise la moelle osseuse et injectons des cellules de cordon qui colonisent le système sanguin, explique le docteur Sauvageau. L'intervention n'a duré que quelques heures durant lesquelles le patient n'a eu qu'à prendre du Benadryl pour éviter les réactions allergiques. Plus semblable à une transfusion sanguine qu'à une greffe d'organes qui nécessite une opération chirurgicale invasive et une anesthésie générale, le traitement n'exige pas de lourdes hospitalisations. Je n'ai pas ressenti d'effets secondaires significatifs sauf des picotements. Pendant quelques semaines, j'avais l'impression de sentir le changement dans mes os, relate le Boucher-Villois. Depuis 2014, ce traitement qui a bénéficié à 120 patients partout dans le monde avec succès jusqu'à maintenant. Il vient d'être autorisé par les instances de santé publique d'Europe. Si le traitement révolutionnaire n'est pas encore reconnu par Santé Canada, de rares patients d'ici, comme Ludovic, peuvent en bénéficier à condition de se qualifier dans les protocoles expérimentaux. Si je compare à ce qu'était ma vie avant, je dirais que c'est bien différent aujourd'hui. Je ne dors plus jusqu'à 18 heures par jour. J'ai de l'énergie et j'ai repris le soccer. Surtout, j'ai des projets d'avenir, s'enthousiasme-t-il. Alors, longue vie à Ludovic Tamaro. Et bravo à tous ces gens qui se sont impliqués dans cette opération, dans ce traitement expérimental à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Maintenant, à la une du Devoir. Des parents se mobilisent contre les coupes en éducation. Révoltés par les restrictions budgétaires en éducation, plusieurs centaines de personnes ont manifesté dimanche après-midi à Montréal pour faire entendre leur voix, mais surtout leur colère, car ils sentent le système à bout de souffle. Et finalement, triste histoire, triste nouvelle à propos des pompiers surexposés à l'horreur comme premiers répondants. Ils sont témoins de scènes difficiles et ils en portent les séquelles. 2 pompiers se sont suicidés en 4 ans et les cas de détresse ont bondi. Une aide psychologique insuffisante et une formation inadéquate sont montrées du doigt. C'est à lire dans la presse plus une enquête de Gabriel Duchesne et de Martin Tremblay.
Trop attendu pour te dire. parti faire le tour dans ma Kia Rio 120 chevaux. J'abrite mon âme dans les deux taux. Kia Rio 120 chevaux. J'abrite mon âme dans les deux taux. Le silence commence à faire mal. Tout ça va trop vite, ouais, trop vite. J'ai trop attendu pour te dire. Veux-tu faire un tour dans ma Kia Rio 120 chevaux? J'abrite mon âme dans les fous la paix, à quoi ça sert de se courir après? Ouais, pas besoin de se faire de la peine.
Robert Robert et sa chanson Kia Rio.
Oui, les louanges, c'était la Toyota. Et puis, Robert Robert, la Kia. Alors, insolite, chronique insolite en compagnie de Louis de Bernis. Louis, vous commencez par une nouvelle qui s'est déroulée en Colombie-Britannique.
Oui, exactement. Une histoire d'amour. Et on dit parfois que l'amour permet de déplacer des montagnes. Eh bien, cette histoire prouve que ça peut être parfois des montagnes de déchets, même si ça n'est pas très ragoûtant. Mais on parle ici d'un mari dévoué quand même. Il a fait des pieds et des mains pour retrouver l'alliance de sa femme. Cette histoire est survenue récemment, là, à la fin de l'été. C'était le 20 août, dans la localité de Mission, en Colombie-Britannique. Au retour d'une sortie au cinéma, Steve Van Iseldyk et sa femme Janine sont entrés de la séance avec un sachet de pop-corn dont le contenu s'est accidentellement renversé dans leur jardin en rentrant. Tous deux ont ramassé le maïs soufflé et l'ont jeté à la poubelle. Le lendemain, Janine s'est aperçue qu'elle avait perdu non seulement son alliance de mariage, mais aussi sa bague d'anniversaire. Deux bagues, donc. En remontant le fil des dernières heures, en réfléchissant, le couple en est arrivé à la conclusion que les deux anneaux étaient probablement tombés dans le sac de maïs soufflé. Trop tard, malheureusement, pour vérifier, les éboueurs étaient déjà passés. Le mari ne se résigne pas, il file à la décharge et demande à fouiller dans les récents arrivages de compost. Cela représentait un tas de 17 tonnes de déchets. Voilà l'ampleur de la mission. Mission impossible aux yeux du responsable de la déchetterie. J'essaye de trouver une manière gentille de lui faire comprendre que vraiment le plus simple serait d'aller acheter deux nouvelles bagues à sa femme.
Un jeu de patience infini.
Exactement. Steve Iseldyk ne se résigne pas et se lance à quatre pattes à l'assaut de ces tonnes de boue assez repoussantes, il faut le dire. Personne de sensé n'aurait fait ça, a ironisé le chef de la déchetterie. Il m'a probablement pris pour un fou, reconnaît Steve, mais je savais exactement ce que contenait notre compost. Et je savais que le sac de maïs soufflé, je savais que ce serait un signe distinctif et que cela me mettrait sur la piste. Et quand j'ai quelque chose en tête, rien ne m'arrête. Il va en effet jusqu'au bout à confirmer sa femme qui partage sa vie depuis 26 ans. Contre toute attente, eh bien, l'abnégation a assez rapidement payé. Il lui a fallu une heure et demie à peu près. Chercheur fou a remis la main sur les deux bagues au bout de 90 minutes.
Dans le sac de popcorn, dans le sac de popcorn.
Oui, en tout cas, à proximité. Janine a été bien contente, on s'en doute. Il m'aime tellement qu'il est prêt à fouiller dans un tas de compost assez pourri et puant. Pour moi, c'est une belle preuve d'amour. Et si vous, oui, si vous intéresse, les photos sont disponibles sur leur publication Facebook. Effectivement, le tas de compost ne donne pas très envie de plonger dedans. Mais voilà, Steve s'est accroché et les deux bagues sont bien jolies, ouais, et sont à nouveau au doigt de sa tendre
échelle. Bravo, Steve. Ça, c'est de l'amour. Du vrai, du vrai, de vrai. Et moi, ça m'est déjà arrivé quand même de fouiller dans un sac de déchets, de vider un sac de déchets littéralement parce que je cherchais désespérément mes lunettes de vue qui m'avaient coûté quand même assez cher. Mm-hmm. Mais finalement, c'était pas là. C'était dans un endroit vraiment niaiseux. Là.
Vous l'avez retrouvé.
Oui, oui, j'ai retrouvé mes lunettes. Mais pas dans les détritus.
Pas dans 17 tonnes
non.
de déchets.
Ah non, certainement pas. Alors, en Espagne, maintenant, il s'est passé quelque chose d'assez spécial, assez
oui,
douloureux.
Une mauvaise surprise quand on rentre de vacances, qu'on ne souhaite à personne, mais qui peut arriver parfois. Le paisible village de San Martí de Tous, c'est non loin de Barcelone, est secoué ces jours-ci, et ça va durer malheureusement, par un conflit. Une habitante de 78 ans cherche par tous les moyens à récupérer sa maison squattée dans laquelle elle vivait depuis plus de 50 ans, relatent plusieurs médias. Tout a commencé à son retour de vacances de la Costa Brava en juillet. La septuagénaire a découvert que 5 inconnus s'étaient installés chez elle. C'était un véritable coup de poignard, dit-elle. C'est ma maison où j'ai vécu avec mon mari, où j'ai élevé mes enfants. Face à l'absence de solution immédiate, elle a eu un coup de sang et elle a saisi, arraché un nid de guêpe qu'elle a trouvé sur un arbre voisin, l'a lancé par la fenêtre pour essayer de faire bouger la situation.
Elle aurait pu se faire du mal à elle aussi.
Oui, ben elle a été courageuse, ouais. Et elle n'a pas été piquée. Les habitants, les squatteurs, eux, beaucoup plus. On a entendu des cris de douleur apparemment et ils ont eu plusieurs piqûres. La vieille dame assure ne rien regretter, qu'ils aillent porter plainte s'ils le veulent, c'est ma maison, je ne les laisserai pas y rester, lâche-t-elle.
Ils peuvent pas dire non, c'est pas moi, ils ont plein de piqûres.
En tout cas, elle a ajouté qu'elle utiliserait s'il le faut tout ce qui lui passerait par la main, des guêpes, des abeilles, tout autre insecte si nécessaire, elle est déterminée. Pour l'heure, aucune plainte n'a été déposée par les squatteurs. Ça aurait pu être le comble de l'histoire. Mm-hmm. En tout cas, l'incident est encore en cours. Il divise un peu les habitants de ce village. Certains prennent parti pour la vieille dame qui considère qu'elle défend ce qui lui appartient. D'autres estiment que le recours aux insectes est un peu disproportionné et dangereux.
Mais c'est sûr, il aurait pu avoir des blessés ou même des morts. Là.
Oui, si pour peu qu'une personne soit allergique, ça mm-hmm. peut créer des réactions, effectivement. En tout cas, pour l'heure, la septuagénaire loge chez une amie et elle va devoir se montrer patiente parce que la maison est au nom de son fils et ce n'est pas la résidence principale de ce dernier. Et en Espagne, l'occupation illégale d'une habitation secondaire comme celle-là est considérée comme un délit mineur et n'est donc ne donne pas lieu à une expulsion urgente, ce qui rend la procédure plus longue. Mm-hmm. La dame est donc pas très loin chez une amie et la situation est un peu bloquée.
Dans des guêpes aussi dans la maison, peut-être?
Oui, peut-être qu'ils ont élu domicile là et si ça peut finir par faire partir les squatteurs, tant mieux.
Ouais.
Mais voilà, il y a du drame dans cette petite localité.
Quand même, c'est ça, il y en a qui surveillent les vacanciers, les gens qui partent en vacances plus d'une semaine, mais on ne peut pas le savoir non plus, à moins qu'il y ait des espions, là, je ne sais pas trop, mais puis à un moment donné, ils se disent, bon, on va aller s'installer là, ça va être notre lieu de vacances, mais ça n'a pas nécessairement bien fini. Quand la dame est revenue, ils se sont fait piquer.
Oui.
Bon, bien, merci Louis pour cette première chronique insolite de la rentrée. On se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Tant pis pour elle, quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle, qu'elle brûle avec elle, retour à l'essentiel, moi le bleu de tes yeux et toi le Dieu de mon ciel. Quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle, qu'elle brûle avec elle, retour à l'essentiel, moi le bleu de tes yeux et toi le Dieu de mon ciel. Fini ce bordel, hésitation à terme, c'est moi que tu aimes, t'as donc plus besoin d'elle.
c'est la fin des querelles, des pluies torrentielles. Et elle pleuvait sur toi, moi je te donne des ailes, tu me donnes des ailes, et on s'échappe du système, que je la vide de tes veines, jusqu'à ce que rien ne l'appelle. Regarde mes lèvres qui invitent les tiennes, c'est notre lune de miel, et tant pis pour elle.
Charlotte Cardin, tant pis pour elle.
Alors, j'étais en train de lire à propos de Ken Dryden, un monsieur exceptionnel. Ken Dryden, qui s'est éteint vendredi à l'âge de 78 ans, il a été emporté par un cancer et on parle de ses exploits sportifs. Il a joué durant 8 ans dans la LNH. Il a remporté 6 Coupes Stanley en carrière, que ce soit en saison ou en série. Il a remporté 74 % de ses matchs. C'est facilement le meilleur dans l'histoire de la Ligue à ce chapitre. Aussi, Ken Dryden a fait son droit durant sa carrière dans la LNH. Il a raté une saison en plein milieu de ses conquêtes de Coupe Stanley pour faire son barreau en 1973-1974. Son livre The Game est considéré par plusieurs comme le plus grand livre jamais écrit sur le hockey. D'ailleurs, on entendait Serge Savard, son acolyte, lui rendre hommage à plusieurs micros, sur plusieurs tribunes en fin de semaine. Et il disait que, en tout cas, son admiration pour Ken Dryden, et il parlait de ce livre comme quoi c'était le meilleur qu'il n'ait jamais lu en termes de hockey. On parle d'accessibilité universelle en culture en compagnie d'Erika Malo du Rideau Vert et aussi de sa complice Marjolaine Gilbert de la Maison Théâtre.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Change.
difficile de pas danser sur cette chanson, September de Earth, Wind and Fire.
Toujours bon, hein? C'est comme une tradition. Au mois de septembre, on met September, mais on peut l'écouter à longueur d'année de toute façon. La communauté de pratique en accessibilité universelle dans les arts de la scène se mobilise et est vraiment heureuse de nous inviter à un rassemblement festif, c'est comme ça qu'on le qualifie. Ça va se dérouler le mercredi 10 septembre, alors c'est dans deux jours, de 16h à 19h au Conseil des arts de Montréal, qui est au 1210 rue Sherbrooke-Est, tout près d'ici. Et pour en parler, j'accueille avec plaisir Erika Malo, coordonnatrice du développement artistique du Théâtre du Rideau Vert, initiatrice de la communauté de pratique en accessibilité universelle dans les arts de la scène. Bonjour Erika.
Bonjour.
Ça me fait plaisir de vous accueillir de nouveau parce qu'on s'était parlé il y a quand même 4 ans.
4 ans déjà, oui.
Ça passe. Vos débuts.
Exactement.
Oui. Et Marjolaine Guilbert, coordonnatrice de l'accueil et de l'accessibilité universelle à la Maison Théâtre.
Bonjour.
C'est une première rencontre entre nous. Bonjour Marjolaine, ça me fait plaisir.
Merci.
Alors Erika, d'abord, pouvez-vous nous dire comment est née cette initiative, ce qui vous a donné envie de la mettre en place?
La communauté de pratique ou le rassemblement festif?
La communauté de pratique.
Oui, la communauté de pratique, elle est née il y a 4 ans et demi, en fait, quand je suis rentrée en poste au Théâtre du Rideau Vert, parce que j'ai décidé de mettre en place un gros projet d'accessibilité universelle dans les arts de la scène, donc d'offrir des mesures d'accessibilité pour tous nos spectacles. Et je ne me sentais pas assez outillée, donc je suis allée chercher de l'aide de mes pairs. Je me suis dit, faisons une communauté de pratique comme on le fait souvent en santé mentale. Donc, j'ai contacter les théâtres, les organismes de défense des droits, les organismes communautaires et des spectateurs. Et je me suis dit, ensemble, co-construisons, en fin de compte, un monde dont on rêve pour que les arts soient accessibles à tous. Je pensais avoir une réponse d'une dizaine de personnes. Dès le début, il y a eu une vingtaine de personnes intéressées. Puis maintenant, on est plus de 80.
Donc, oh, wow.
C'est vrai. Et c'est étendu à la grandeur du Québec.
Marjolaine, vous faites partie de ceux et celles qui ont dit oui. Pourquoi?
Bien, parce qu'on était dans le même mouvement, en fait. Moi, je venais d'arriver aussi à la Maison Théâtre, puis j'avais comme mandat de faire des représentations sensoriellement accessibles, fait que j'étais dans le même questionnement, fait que je me suis jointe, puis j'en ai profité autant que Erika a pu en profiter pour mettre les choses en place à la Maison Théâtre.
Alors, le 10 septembre, mercredi, vous allez tenir la deuxième édition du rassemblement de cette communauté. Qu'est-ce qui a changé depuis la première rencontre, diriez-vous?
Ben déjà, on a beaucoup plus de membres dans la communauté. Les initiatives ont éclos un peu partout au Québec. D'ailleurs, on va faire une petite partie, justement, bilan hein, dans cette rencontre festive. Et on voit vraiment que la plupart des gens se mettent en route, que ce soit dans des grosses structures, je dirais plus institutionnelles, que dans des petites compagnie de création. Vraiment, les choses augmentent à une vitesse qui est assez sidérante. Hein. Avec Marjolaine, on est assez impressionnés.
Ouais.
Donc, voilà, c'est ça. Il y a un petit peu plus de financement aussi des gouvernements. Donc, ça, c'est quand même une bonne chose. J'ai vraiment l'impression qu'on est mieux entendu par les différents paliers gouvernementaux. Ça, c'est important. Je pense que l'accessibilité universelle fait maintenant partie intégrante des conversations culturelles. On ne peut plus passer à côté.
C'est ce que j'étais pour dire, en fait. C'est que moi, je trouve qu'il y a plus de dialogue maintenant qu'il y en avait il y a quelques années. En fait, les canaux de communication sont ouverts entre les organismes de défense de droits, les compagnies artistiques. Il y a maintenant un volet culturel à la QLPH, à l'Association québécoise des personnes handicapées, pour le loisir des personnes handicapées. Donc, il y a vraiment ces discussions-là qui sont ouvertes un petit peu plus librement. Il y a plus de gens qui nous posent des questions aussi. Donc, on commence à réfléchir ensemble, alors que je pense qu'il y a plusieurs années, j'avais l'impression qu'on réfléchissait chacun tout seul de notre côté à qu'est-ce qu'on va faire dans notre organisme culturel, alors que maintenant, vraiment, la conversation est ouverte.
Alors, qui a mis sur pied ce deuxième rassemblement festif là? Est-ce que vous êtes juste les deux à vous être impliqués?
Non, on est effectivement toutes les deux impliquées. En fait, la communauté de pratique, comme je disais, il y a 85 membres en ce moment. Elle est aussi constituée de sous-comités. On a plusieurs comités. Par exemple, Marjolaine travaille sur un comité billetterie accessible. On a mis en place un comité de calendrier culturel accessible il y a quelques années qui fonctionne très bien. Et donc là, on a un sous-comité d'organisation, donc Marjolaine et moi. Également, Charlotte Gagnon de l'Opéra de Montréal et Marc-Antoine Morin, qui est un spécialiste en fait en accessibilité, surtitreur et audiodescripteur.
Et qu'est-ce qui va se dérouler lors de ce rassemblement?
Bien, on va faire, comme disait Erika tout à l'heure, un retour d'abord sur la saison passée pour voir où on en est rendu. On va célébrer toutes les réussites. Il va y avoir aussi une table ronde organisée entre divers membres du milieu, donc spectateurs, comédiens, personnes à mobilité réduite qui est aussi artiste, donc pour réfléchir autour de ce que ça veut dire, accessibilité universelle et où elle est rendue.
Pourquoi c'est important de faire se rencontrer ces voix différentes, finalement?
Parce que c'est eux qui font partie de cette communauté-là et on veut savoir comment ils ont vécu, en fait, ce qu'on a fait, nous, dans les dernières années, parce que nous, on le vit d'une certaine façon dans les organismes culturels, mais on veut savoir comment les spectateurs l'ont reçu, comment les comédiens l'ont reçu, comment les comédiens de la diversité se sont sentis sur scène aussi, parce qu'ils sont de plus en plus représentés. On veut leur donner une voix, on veut qu'ils soient présents. Donc, c'est pour ça qu'on veut faire cette table ronde-là. Puis, il va aussi y avoir une présentation du Théâtre Déchaîné qui a fait un guide qui s'appelle...
L'accessibilité créative.
Merci.
Introduction
à l'accessibilité créative, exactement. Donc, qui est vraiment destinée pour les compagnies qui veulent se lancer en accessibilité à partir du début de la création. Puis ça, pour nous, ce serait vraiment... En tout cas, pour nous, à la Maison Théâtre, on est un diffuseur. De travailler avec des compagnies qui penseraient à l'accessibilité dès le départ, ce serait vraiment plus facile pour nous, plus facile pour tout le monde. Donc, on encourage cette réunion-là et ces discussions-là.
Et est-ce que ce rassemblement sera accessible à tous et à toutes?
Oui, alors le rassemblement est accessible, évidemment, parce que le Conseil des arts de Montréal est accessible au niveau du bâtiment, du bâti, du cadre bâti. On a aussi des interprètes LSQ qui vont être présents avec nous durant toute la soirée. Et on a des bénévoles présents qui vont pouvoir accompagner les personnes qui en auraient besoin pour se déplacer.
Qu'est-ce que vous aimeriez que les participants et participantes retiennent en quittant cette rencontre?
En fait, c'est mon souhait depuis le début, c'est-à-dire que si on s'allie, les choses sont possibles. Pour moi, j'ai envie que les gens repartent en disant « il y a des choses qui bougent, je ne suis pas seule à me battre pour pour défendre mes droits, pour faire valoir mes droits. Les gens sont là et ensemble, on peut bâtir quelque chose de nouveau et de meilleur. » Moi, j'ai vraiment envie de... On est dans une époque qui est un petit peu difficile en ce moment, là, avec tout ce qui se passe dans le monde. Moi, j'ai envie de créer. C'est vraiment mon idée depuis le départ, de créer des petites bulles comme ça, d'optimisme, de possibilité de dire aux gens, oui, la culture est accessible à toutes et tous. Vous faites partie aussi intégrante de cette culture, que vous soyez spectateur, bénévole ou artiste. On fait tous partie. Et donc, j'ai envie que les gens repartent en disant, j'ai envie de participer l'année prochaine. J'ai envie de voir qu'est-ce que je peux faire de mon côté. J'ai envie de transmettre ces informations à d'autres compagnies qui n'étaient pas là ce soir. Donc, vraiment que ce soit vecteur aussi, que ça serve à aller plus loin, en fait.
Est-ce que vous l'observez, le fait que ça soit de plus en plus accessible d'aller au théâtre, par exemple, dans le public, dans la salle. Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes en situation de handicap qui se présentent au spectacle?
Oui, mais tu sais, l'anecdote que je peux donner qui le décrit le mieux, c'est que, par exemple, nous, à la Maison Théâtre, on a fait quelques spectacles qui sont dits accessibles, dans lesquels il n'y a pas nécessairement beaucoup de gens qui vont se présenter, mais il y a des effets collatéraux qui se passent. Donc, en scolaire, par exemple, on ne fait pas de spectacle adapté pour le moment, on va en faire cette saison, mais l'année passée, on a eu au-dessus de 1000 élèves qui sont venus avec des conditions particulières, donc déficience intellectuelle, autisme, déficience physique, donc c'est près de 3% de nos élèves qui sont venus avec des problématiques ou avec des situations avec un handicap, ce qui n'était pas le cas auparavant. On en avait quelques-uns qui étaient intégrés dans des classes, mais maintenant, on a des classes vraiment spécialisées qui viennent, qui se déplacent en groupe. Fait que on voit qu'il y a un effet au-delà des actions qu'on pose. Les gens se sentent maintenant accueillis parce qu'on fait des actions, puis ils viennent dans nos représentations qui sont dites régulières. C'est ça qui est magique, en fait. C'est ça qu'on aime.
C'est l'écho que j'ai eu aussi chez nous, parce que la première année, par exemple, pour la Théâtre Description, il y avait une dizaine de personnes à la première représentation avec Théâtre Description. Et cette année, on est à plus de 40 personnes. On a donc ouvert d'ailleurs une deuxième représentation avec Théâtre Description, qui est maintenant aussi en matinée pour convenir aux personnes qui sont semi-voyantes et qui préfèrent se déplacer en journée. Donc, on voit vraiment qu'il y a une demande. Et je pense que ce qui fait la force aussi de nos organismes, c'est qu'on est à l'écoute du public beaucoup. On va chercher les besoins et on essaye d'y répondre le mieux qu'on peut. Donc...
Alors, je suis avec Erika Malo et Marjolaine Guilbert, Erika du Théâtre du Rideau Vert et Marjolaine de la Maison Théâtre. Je me demandais les principaux obstacles, j'imagine qu'il en reste, des obstacles que rencontrent encore les publics en situation de handicap lorsqu'ils souhaitent assister à un spectacle, un événement culturel.
Mais c'est sûr que le principal obstacle, hein, c'est un obstacle financier. Mm-hmm. Les billets de théâtre sont quand même dispendieux. Donc, c'est sûr que, par exemple, au Rideau Vert, on a mis en place une politique tarifaire accessible de 30 $ le billet. On accepte aussi la carte CAL et la carte Accès 2, mais le principal enjeu, c'est ça. Et c'est le sous-financement des arts en mm-hmm. général et des mesures d'accessibilité en particulier. Comme je le disais, il y a quand même eu des améliorations. On est très contents. On est soutenus maintenant par le CALC. La communauté de pratique, ça je tiens à le dire, est aussi financée et soutenue par le Conseil des arts de Montréal depuis cette année. Ça, c'est pour nous une très grande reconnaissance de l'importance de ce qu'on fait. Mais ça, pour moi, le financement, c'est le nerf de la guerre.
Ouais. Vous êtes d'accord, Marjolaine?
Oui, c'est sûr, parce que nous, ça ne nous permet pas, le financement qu'on a aussi de notre côté dans les institutions, ne nous permet pas de faire plusieurs représentations. Donc, on a vraiment des représentations au compte-gouttes. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas venir dans les représentations qui sont dites régulières, mais ça devient aussi un obstacle de devoir être disponible au moment où il y a la représentation pour aller voir tel spectacle qu'on a choisi de présenter. C'est peut-être pas non plus les spectacles que les personnes voudraient voir. Donc, c'est sûr qu'il faudrait qu'on soit capable d'en faire plus mm-hmm. et de l'offrir à un coût qui est moindre.
Alors, le rassemblement n'est pas au bout de ses peines, si je peux dire. Il va y avoir d'autres éditions, j'imagine.
Oui, en fait, la communauté de pratique en accessibilité universelle dans les arts de la scène se réunit à peu près 8 fois par année par Zoom, de façon à être accessible dans tout le Québec. Mais on fait un rassemblement festif par année parce que c'est important de se voir en vrai. C'est important de s'ouvrir aussi en dehors de la communauté. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas membres de la communauté de pratique qui vont être présents mercredi. Là, on est à peu près à 85-90 personnes qui ont déjà répondu à l'appel. Et c'est important aussi parce qu'il faut qu'on soit ancré dans la grande communauté québécoise, en mm-hmm. fait, et qu'on fasse voir le résultat de nos travaux. Donc oui, il y en aura un normalement par année dans les années à venir.
Est-ce qu'il reste de la place si on est intéressé à y assister?
Oui, bien sûr, il reste encore de la place. Les personnes ont juste à me contacter au Rideau Vert, donc soit sur mon email emalo@commercialrideauvert.qc.ca ou à mon téléphone 514-845-0267, poste 2206.
514-845-0267. 7 poste 2206, le qualificatif festif, ça veut dire quoi exactement?
Ça veut dire que c'est un 4 à 7 à cocktail avec bouchée et boisson pour ceux qui voudront en prendre. Donc, l'idée, c'est vraiment de se rassembler puis de passer une belle soirée.
Alors, si, en terminant, je vous demande de nous proposer un spectacle au Rideau Vert et à la Maison Théâtre où justement, il y a de l'accessibilité universelle, où c'est accessible à tous et toutes.
Mais moi, j'inviterai les gens à avoir une grande nouveauté cette année au Rideau Vert. Donc, le spectacle « À toi pour toujours, ta Marie-Lou », qui aura lieu à l'hiver, sera interprété en LSQ. Mais cette année, une grande nouveauté, on va avoir des acteurs et actrices sourds sur scène qui joueront à côté des acteurs entendants le spectacle. Donc, c'est très nouveau. Puis, on est très heureux de travailler avec la compagnie ILSQ pour ce spectacle.
Grand classique de Michel Tremblay à l'affiche du Rideau Vert à partir du 28 janvier avec Michel Charette et Madeleine Péloquin dans une mise en scène d'Henri Chassé, qui est un excellent acteur aussi. Et chez vous, à la Maison Théâtre, Marjolaine?
Bien, moi, je vous inviterai aussi en février, cet hiver, à la pièce « En attendant la cloche » de Théâtre Bouches Décousues. Je vous invite à celle-là parce que c'est la première fois qu'on va présenter une audio-description en scolaire, plus dans familial. Donc, on va pouvoir toucher tous les publics.
Et puis, on peut rappeler vos adresses de sites Internet respectifs?
Rideauvert.qc.ca pour le Rideau Vert.
Maisontheatre.com.
Et si on se projette dans 5 ou 10 ans, là, à quoi ressemblerait pour vous un milieu des arts vivants réellement accessible à toutes et à tous?
Bien, dans l'idéal, ce serait que n'importe quel public, n'importe quelle personne puisse assister à n'importe quelle représentation. Ça reste utopique, mais c'est vraiment ce qu'on vise avec chaque petit pas qu'on fait pour avancer vers ça.
Et puis, bien sûr, plus de représentativité sur scène. On voit que ça commence à se développer. La communauté, elle a été construite pour les publics au départ, mais maintenant, on se tourne vers les acteurs et actrices qui sont de la diversité capacitaire et on souhaite en voir de plus en plus dans nos productions.
Alors, je vous remercie beaucoup d'être passé en studio, puis je vous souhaite une belle saison, belle continuation, un bon rassemblement le 10 septembre. Erika Malo, coordonnatrice du développement artistique du Théâtre du Rideau Vert et initiatrice aussi de la communauté de pratique en accessibilité universelle dans les arts de la scène, et Marjolaine Guilbert à la Maison Théâtre, donc coordonnatrice de l'accueil et de l'accessibilité universelle à la Maison Théâtre, Beau Théâtre sur la rue Ontario. J'ai amené mon filleul là, ce sont ses premiers pas au théâtre et depuis ce temps-là, c'est un spectateur assidu.
C'est merveilleux.
Merci à vous deux.
Merci beaucoup.
arena, 10 corredores, 10 veces corredor, 10 serpientes, 10 sapos. Mapucheak, 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 dijo Mapucheak, 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 dijo Mapucheak, Mapucheak, dijo, dijo que somos desde hace mucho, somos norte y sur, oriente, luna llena, sequía, noche, viento y estrella, sol en alto va, que sirvió para salvarse de la riada, roble blanco está.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
la chanson, j'imagine, d'Émile Bourgault.
L'association entre Ultra Trail Arikana et Sclérose en Plaques Canada a atteint un point symbolique important lors de la 14e édition de l'événement. Grâce à une somme de près de 150 000 $ ramassée en 2025, le plateau du million de dollars récolté est maintenant dépassé. Le directeur général de l'Ultra Trail Arikana, Samuel Matt Thibault, a été touché par la générosité des gens. Pour lui, la continuité et l'impact de cette mission que s'est donnée l'association en mémoire de son cofondateur Sébastien Boivin, mort de la maladie, est toujours aussi perceptible. Diego Mena Martinez, directeur général de la division du Québec de la Société de la SP, affirme que l'association entre Ultra Trail Arikana et Sclérose en Plaques fait définitivement partie des 5 événements qui amassent le plus de fonds pour la cause au Québec. 1 million de dollars n'est certainement pas négligeable et permet d'avoir un impact majeur sur le portfolio de recherche, incluant les formes progressives pour lesquelles on n'a pas encore trouvé de traitement. On a de très bons chercheurs au Québec, reconnus de manière internationale, et on a actuellement une quinzaine de recherches encore dans la province, dit-il. L'objectif est toujours de diagnostiquer plus tôt, avoir des traitements précis et améliorer les soins au quotidien des patients. Cette somme sert également à la sensibilisation et l'association offre une visibilité importante à la cause. Ensuite, une équipe de pompiers du service d'incendie d'Actonville relèvera le défi gratte-ciel. Ça va se dérouler le 27 septembre pour soutenir les Canadiens touchés par les maladies neuromusculaires, comme la dystrophie musculaire. Ce défi les mènera à Shawinigan pour grimper la tour de la Cité de l'énergie 2 fois plutôt qu'une, le plus rapidement possible, testant leur endurance et leur force physique. Les dons recueillis pour encourager les pompiers valois dans cet exploit aideront les personnes qui vivent avec des maladies neuromusculaires à avoir accès à des programmes, à des services et à du soutien. Les pompiers participants sont Vincent Gagnon, Lucas Simard, Hélène Lépine, Raphaël Leclerc, Olivier Sorel, Parent et Jérémy Chagnon Morin. Les dons peuvent être versés en visitant le Muscle à Carésin et en cherchant l'équipe Hélène and the Boys. C'est pas moi, c'est Hélène Lépine. Vous écoutez Au quotidien, il nous reste une demi-heure à passer ensemble. À venir, la musique de Fishback. On entendra aussi la nouveauté de Joseph Arthur et une rencontre avec la comédienne Alice Moreau qui vient nous présenter la pièce Les Vacances.
Vous pouvez
Au quotidien avec Hélène Denis.
Thank you.
Mortel de Fishback.
En pleine conversation avec la comédienne Alice Moreau, je lui disais à quel point je la trouvais belle, je la trouvais bonne. Et c'est pas de la flagornerie, là, c'est vraiment sincère. Je l'ai découverte dans la télésérie aux côtés de Julie Le Breton, dans la télésérie Affaires criminelles. Tellement bon, cette série-là.
C'est tellement gentil, merci. On avait eu tellement de plaisir à faire ça. Je suis bien contente que les gens aient aimé.
Ouais. Bonjour, Alice.
Bonjour.
Alors, on parle aujourd'hui de théâtre avec vous parce que vous faites du théâtre, vous faites de la télé, vous faites du cinéma et vous allez jouer dans Les Vacances. Juste le titre, ça donne le goût de partir à la petite licorne.
Ah, tant mieux.
Pour voir cette pièce qui prendra l'affiche très bientôt, hein, le 15 septembre exact. Jusqu'au 4 octobre. Une pièce signée Lily Pinsonneau, mise en scène par François Bernier. Alors, c'est quoi Les Vacances? Qu'est-ce que ça raconte?
Les Vacances, c'est une adaptation d'une nouvelle littéraire de l'autrice Lily Pinsonneau qui a décidé de se lancer dans le théâtre. Fait que c'est son premier texte théâtral.
Oui.
Puis franchement, c'est assez percutant. Sa langue, c'est incisif, c'est drôle, c'est punché, c'est rythmé. Ça raconte l'histoire d'un voyage qu'on a tous et toutes fait en début vingtaine. Là, t'sais, un Eurotrip pendant une couple de mois, on sait pas trop où qu'on s'en va. Puis fait que c'est MP qui rentre en fin de journée d'une soirée de la veille bien arrosée.
OK, MP.
MP, Marie-Philippe.
On n'en dit pas plus. OK.
Marie-Philippe, ses initiales. Personnage de MP qui rentre peut-être encore saoul de la veille, puis qui interpelle le public comme si on était les chambreurs dans le dortoir de l'auberge jeunesse où elle loge, puis qui nous raconte les déboires de la soirée de la veille, puis là, c'est tordant parce qu'on se reconnaît tous dans ce voyage-là qu'on a fait, justement.
Ouais.
Là, genre, on a 21 ans, là, puis on rencontre
MP, du monde. C'est pas vous.
Non. Ça, c'est est interprété par Lou Vincent Desrosiers, avec qui je partage la scène pour mon plus grand bonheur. Elle est vraiment formidable. Puis, donc, elle nous raconte la soirée de la veille, puis on se rend compte qu'elle ne sait plus où se trouve son ami Frédéric, sa grande chum, partner de voyage. Free, que j'interprète.
Alors, Free appelle son ami MP et MP appelle son ami Frédéric.
Exactement,
Free.
Oui, okay. Oui. Puis, tu sais, des meilleurs amis, là, c'est comme des sœurs,
ouais.
Ils se parlent sans se parler.
À la vie, à la mort.
Oui, exactement. Puis, finalement, c'est une espèce d'enquête qu'on fait sur qu'est-ce qui est arrivé avec Free. Puis, plus la pièce avance, plus on en sait. Puis, plus, finalement, les vacances se passent peut-être pas comme on pensait.
Ah!
Et je n'en dirai pas plus.
Non, parce que c'est un suspense quand même.
C'est un suspense, oui, exactement.
Et Frey arrive dans le décor assez rapidement dans la pièce?
Oui, oui, puis il y a des allers-retours entre le moment où se déroule le voyage, fait que 2014, puis aujourd'hui, là, nos jours, on apprend qu'est-ce qui est arrivé. Fait que ça joue comme ça une tresse un peu dans la trame chronologique.
Et Alice Moreau, vous qui êtes assez sollicitée pour, comme je le disais, vous faites du théâtre, du cinéma et de la télé, pourquoi vous avez été séduite? De quelle manière vous avez été séduite par ce texte-là?
Bien, moi, premièrement, des auteurs qui n'ont jamais écrit de théâtre, qui se lancent puis qui font un premier texte aussi bon de surcroît, c'est vraiment difficile de dire non. Ça, c'est la première affaire.
Ouais. Le texte est bon.
Le texte est vraiment solide. Vraiment, vraiment solide. Il est savoureux, il est rythmé.
C'est agréable à jouer.
Il a le sens du punch,
ouais.
Oui, c'est coloré, c'est imagé. C'est pour un premier texte, moi, j'étais comme, ça va être que du plaisir, on peut pas dire non à ça. Il n'y a pas de question à se poser. La deuxième chose, je dirais que c'est ma grande amie Lou Vincent Desrosiers avec qui on me proposait de jouer. Fait que...
Avez-vous déjà joué avec elle?
On n'avait jamais joué ensemble, mais c'est une grande, grande, grande amie à moi. Je me suis dit, mon Dieu, mais là, c'est une partie
Pourquoi
de plaisir.
Pas?
Puis en plus, Lou est vraiment exceptionnelle. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir 5 balles dans la tête l'année
ouais.
dernière.
C'est là que je l'ai découverte.
Oh mon Dieu, elle est tellement solide.
Belle
c'est vraiment
présence
une
sur
grande
scène.
Comédienne rigoureuse, pleine de précision puis de souci du détail.
Mm-hmm.
Puis fait que je me suis dit, moi, voir cette fille-là travailler, ça va être un charme. Puis j'avais jamais...
Et c'est
jamais...
le cas?
Et... Ah, mon Dieu, que c'est le cas! Ah, c'est une grande amie à moi, mais j'ai vraiment découvert une actrice, là, une collègue de travail, là, appliquée, rigoureuse, sérieuse, puis en même temps, du grand plaisir dans le
oui.
travail. C'est une vraie joie de collaborer avec elle. Puis François Bernier, le metteur en scène, avec qui j'avais jamais travaillé, mais avec qui je m'entends très bien. Puis
ça va bien de quoi?
Ah, ben quoi? Le show s'appelle les vacances. Ça peut pas mal se passer.
C'est vrai. Mais Lou, Vincent Desrosiers, vous dites que c'est votre grande amie. Est-ce que vous avez déjà voyagé avec elle?
C'est drôle.
Êtes-vous déjà parti en vacances avec elle?
Oui, on est allé en camping pas plus tard que cet été.
Pour vrai?
Oui.
En sachant que vous alliez jouer ensemble?
Oui, oui, en sachant qu'on allait jouer ensemble. On faisait des italiennes ensemble sur le bord de la mer pour pratiquer le texte.
Puis ça s'est pas passé de la même façon que ça se passe dans la pièce, j'imagine.
Non, fort heureusement.
OK, fort heureusement. Oui, ça, oui. Ouais, vous nous donnez un indice, là. On dit que le texte, vous l'avez qualifié de comment déjà le texte de Lily Pinsonneau? Parce que moi, j'ai lu mordant, profondément humain.
Mordant, humain, incisif, tordant.
OK, imagé. Alors on passe par toutes les émotions, là.
Ah oui, c'est une vraie courbe, c'est très bien construit. Il faut pas se laisser leurrer. Ou alors, oui, il faut se laisser leurrer. Il faut s'abandonner complètement.
Oui, il faut s'abandonner. Oui. Comme vous abandonnez, comment vous avez construit votre personnage?
C'est particulier parce que mon personnage, moi, il vient comme intervenir dans la trame chronologique, là, vient un peu, comme je disais, là, il y a deux temporalités, mm-hmm. On va dire 2014 puis 2025.
On est dans le présent et dans le passé.
Ouais, fait que moi, j'agis sur les deux trames, fait que j'ai construit mon personnage en écoutant beaucoup l'histoire, le récit qui est raconté par MP, interprété par Lou. Mm-hmm. Pour savoir de quelle manière est-ce que de façon intelligente, je peux m'inscrire dans la construction du récit pour brouiller les pistes ou semer des indices au bon moment, trop, juste assez, pas trop. Fait que c'est en écoutant beaucoup Lou raconter ce récit-là comme une histoire pour que je sache exactement, comme une musique, là, à quel moment est-ce que, paf, les cuivres rentrent pour donner plus d'impact, à quel moment, pouf, la flûte s'éteint pour en donner moins. Fait que c'est en m'assoyant puis en écoutant beaucoup que
la clé dans l'écoute.
La clé est toujours dans l'écoute, j'ai le goût de dire, mais particulièrement là, ouais.
Et François Bernier est-il un bon écouteur, j'allais dire?
Très bon écouteur, d'une grande qualité. Oui, très bon directeur d'acteur, franchement, là... Il y a des idées, il est dans le détail. Moi, pour être parfaitement honnête, quand j'ai lu le texte, je trouvais le texte incroyable, mais puis c'est probablement pour ça que je ne suis pas metteur en scène, mais je ne comprenais pas comment on allait faire pour rendre ça vivant, pour garder le public captif d'un récit. Là. Finalement, c'est mm-hmm. une histoire de brosse là, qu'on raconte, tu sais. Puis comment est-ce que ça allait rester vivant sur scène? Puis clairement, lui, il avait pas de problème avec ça.
Il en a fait un objet théâtral.
Ah oui, c'est ça prend vie, on se déplace d'un lieu à l'autre, on voit les images. Puis avec un petit mot, là, avec un petit détail, puis des fois, carrément sur un petit mot dans le texte, là, il ajoute une couleur, un détail qui ajoute tellement de dimension. Vraiment, c'est vraiment le fun. Je suis comme, venez voir ce show-là, on a tellement de fun à le faire, faut pas manquer.
Et Alice Moreau, vous avez déjà joué à la Licorne, mais dans le théâtre, la petite Licorne, la salle le plus oui. intime, est-ce que c'est une première pour vous?
Non, j'avais déjà joué à un show qui s'appelait Invisible, il avait été mis en scène par Edith Patnaud. Je jouais là-dedans avec Noémie O'Farrell, José Deschênes, Steve Laplante, sur deux fugueuses là, qui partaient.
Pas deux vacancières, deux fugueuses.
Non, un autre genre de vacances, là, ouais, vraiment un autre ton. Là. Mais okay. ça avait été un bon show.
Puis est-ce que vous aimez jouer sur des petites scènes?
Oh oui, j'aime ça, jouer ouais. sur des petites scènes. L'intimité de ces salles-là, ça permet...
On peut pas tricher, hein?
On peut pas tricher.
Mais je pense pas que vous soyez une tricheuse non plus, là.
Ouais, non, j'espère que non.
Mais quand on est comédienne ou comédien, on triche un peu quand même.
Bien, on joue avec la triche, ouais. C'est la fine ligne entre la vérité et la fiction. Au fond, c'est un peu de la triche tout le temps, ouais. Mm-hmm.
Mais la triche honnête.
Oui, exact, c'est ça, oui. Mais ce qui est le fun avec La Petite Licorne, c'est que ça peut se rapprocher du jeu cinéma, là, tu sais.
Ah oui.
Faut garder le tonus, puis le oomph, puis il y a une conscience que c'est du jeu théâtral, mais on ne peut pas non plus pousser, évidemment. Je veux dire, on n'est pas à Denise Pelletier, pas 800 personnes.
Non, la voix n'a pas besoin d'être projetée.
Non, ça peut devenir même trop rapidement. Fait que c'est un bel entre-deux, c'est le fun de jouer là, vraiment. Puis c'est un beau théâtre, l'équipe est le fun.
Ouais.
Les shows qui sont là, les comédiens qu'on croise là. C'est toujours le fun être à la Licorne.
Vous êtes sortie de l'École nationale de théâtre il y a 10 ans maintenant?
Oui, oui.
Est-ce que vous vous êtes dit, moi, dans la vie, c'est du théâtre que je fais? Est-ce que vous aviez un plan de carrière?
Oh mon Dieu, j'aimerais se dire que c'est possible d'avoir un plan de carrière. Mais ben moi, d'abord, c'est le théâtre, mes premiers amours. Là, fait que depuis que j'ai 7 ans, là, genre, c'était comme...
Ah oui?
Ouais, oui.
7 ans?
Oui, au primaire, on avait fait un show. Je jouais une petite sardine dans un banc de sardines, puis j'étais sortie de scène en me disant... Je pense pas que je savais que...
Un jour, je serai sardine.
Oui, exact. Ma vie comme sardine. Mais je pense pas que je savais qu'on pouvait être comédienne à cet âge-là, ouais. Tu sais, professionnelle. Mais j'étais comme... Ça, je veux en faire encore et toujours du théâtre. Fait que le théâtre, c'est mes premiers amours. Mais en sortant de l'école, moi, j'avais le goût de tout faire. J'ai le goût de toucher à tout, de goûter à tout. Puis j'ai de la chance, franchement. Je travaille sur plusieurs tableaux à la fois. Mais si s'il fallait que j'en choisisse rien qu'un là, pour toujours, là, probablement que je choisisse
la scène,
théâtre, ouais.
L'art vivant.
Ouais. Ouais. Ah oui, c'est tellement trillant, c'est challengeant, on a du temps.
C'est moins payant.
C'est moins payant! Faut en faire pas mal plus, oui.
Oui, mais ça vaut le coup, si je peux dire.
Ça vaut le coup, puis quand on parle avec des gens qui sortent des salles, tu sais, le public, après, tout le monde dit la même chose. Il n'y a rien comme l'art vivant, il n'y a rien comme partager l'expérience in situ.
Oui, ça se passe maintenant.
Oui, oui.
Demain, ça sera la même, ça sera pas la même représentation, même si c'est le même texte avec les mêmes comédiens.
Exact, puis sentir les autres vibrer, puis réagir, puis... Mais après, je suis preneuse, hein, n'importe quoi.
Oui.
J'ai du fun. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ce métier-là.
On vous a vu dans Alerte, Le Bonheur, Une affaire criminelle, on en parlait tantôt, Théâtre, Les Ploufs, Les Louves. Je nomme quelques titres au cinéma solo de Sophie Dupuis.
Oui.
Qu'est-ce qui vous fait dire oui à un rôle?
C'est une bonne question. Il y a plusieurs facteurs. Ça pourrait d'abord et avant tout être le texte. Après, le texte, parfois, on le travaille et on continue à y travailler longtemps. Fait que c'est pas obligé d'être le texte. Ça peut être les collaborateurs.
Mm-hmm.
C'est souvent même les collaborateurs, des gens avec qui j'ai envie de travailler, avec qui j'ai jamais travaillé, des gens avec qui j'ai déjà travaillé, avec qui je me dis, je vais refaire ça, let's go. Le lieu aussi, un théâtre où j'ai jamais joué, si on me permet de tourner dans X, Y région. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs. Mm-hmm. Ça peut être plusieurs facteurs ensemble. Mais je dirais que ce qui me guide beaucoup, c'est les défis. Est-ce que je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait? Est-ce que je m'apprête à faire quelque chose que je sais pas comment faire? Ça, ça m'intéresse toujours beaucoup. Et ensuite, le fun. Parce que...
Le plaisir, le risque.
Ouais.
Ouais.
Parce que pourquoi est-ce qu'on est là, dans le fond?
Ah oui. Ça s'appelle du jeu.
Ouais, ça s'appelle du jeu. Parce qu'on oscille entre ça, le risque, le lâcher-prise et le contrôle. C'est une espèce de triangulation entre ces affaires-là.
Et à la fin des vacances, la pièce Les Vacances, qu'est-ce qui vous attend, Alice Moreau?
Ce qui m'attend après les vacances, c'est la reprise d'un spectacle qu'on a fait en 2022 au FTA.
Ah oui, qui vous a fait voyager à travers le monde?
Oui, exact, ouais. C'est fou. On l'a joué à travers le monde, en tout cas bientôt peut-être. On n'arrête pas de tourner ce show-là un peu partout.
Vous êtes allé en Europe, entre autres.
On est allé en Europe, on est allé aux États-Unis.
Aux États-Unis? Vous l'avez présenté en français aux États-Unis?
En français et en anglais. Ah, okay. En mars dernier, on était à New York, puis on l'a joué en anglais 2 semaines.
C'est quoi cette pièce-là?
Ça s'appelle « Malaise dans la civilisation ». C'est un texte d'Étienne Lepage, puis c'est mis en scène par Alice Dufresne. Puis on joue ça à Fred Barry à l'automne, là, fait que octobre...
On va surveiller ça.
Octobre, novembre à Fred Barry. Puis on le rejoue à Montréal. Fait que profitez-en parce que d'habitude, on le joue partout ailleurs, sauf à Montréal. Puis je pense vraiment que c'est un show qui vaut la peine. C'est un show qui connaît une réception exceptionnelle partout à travers le monde. N'importe où on l'a joué, là, les gens ont un plaisir. Ça dure une petite heure. C'est short and sweet.
Vous êtes en scène avec qui?
Il y a Renaud Lasalle-Bourdon. Debbie Lynch-White et Maxime Genois là-dedans.
Belle distribution.
Oh. Puis c'est vraiment plaisant. Je pense que c'est une pièce qui est très difficile à décrire. Personne ne peut s'attendre à ce qui se passe sur cette scène-là. C'est 4 touristes qui débarquent sur une scène.
Encore?
Là, à partir de là, on ne sait pas ce qui se passe.
Alors, il y a les vacances. Vous êtes touriste dans les vacances et vous êtes touriste dans cette pièce-là, mais autrement.
Mais là, j'appelle touristes ces gens-là plus comme des gens qui débarquent sur une scène puis qui ne sauraient pas trop les codes.
OK.
Ouais.
Genre tata. Un peu.
Un peu, je dirais ça, oui.
Bon, mais on retient le titre, Malaise dans la civilisation. Ça va se dérouler à la salle Fred Barry un peu plus tard. J'aurai l'occasion d'en reparler sur nos ondes. Et il faut aller voir Les Vacances, hein?
Oui.
Vous avez convaincu. À l'affiche de La Petite Licorne du 15 septembre au 4 octobre. Et une pièce qui met en scène Lou Vincent Desrosiers et Alice Moreau, que je recevais ce matin avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Alice.
Et merci à vous.
Le mot de Cambronne.
Ah, je le prends.
listening to the radio, dimming the lights down low, taking down the volume to 1+1. Full fire on TV, glass of wine in front of me, 2025's feeling bright. I try to hope that it's all tricks. I grip the rope and try not to slip. Bought a bottle of champagne, maybe I'll never do it again. Two shots of tequila without lime. Made out with the girl next door, saw her at the corner store. Full moon feeling like end of times. Every day might be the last. Every day going by so fast. Try to hope that it's all tricks. I grip the rope and try not to slip.
Champagne 25, Champagne 25, c'était Joseph Arthur.
Et oui, on en parlait ce matin, Rick Davis est mort. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose, j'imagine bien. Rick Davis, en tout cas pour ceux qui ont un certain âge, parce que Supertramp, on les entend encore, mais moins. Et là, ben Rick Davis, qui était un des membres fondateurs de Supertramp, claviériste et chanteur avec son acolyte Roger Hodgson. Je les entends dans mes oreilles. J'entends du Supertramp dans mes oreilles. Est-ce que...
Ben oui, mais ça vient pas de mon côté.
Non? C'est bien bizarre, ça. Ah, oh, OK, c'est moi sur la tablette. Alors, oui, j'étais en train de vous dire que Rick Davis, malheureusement, il s'est éteint. On a appris cette triste nouvelle ce matin. Il s'est éteint à l'âge de 81 ans. Et je vous parle en essayant de baisser le son, mais je pense que là, c'est fait. Rick Davis, chanteur, cofondateur du groupe de rock britannique Supertramp, est décédé samedi. On l'a appris ce matin, mais il est mort samedi à l'âge de 81 ans, après 10 ans de lutte contre le cancer. Auteur de plusieurs succès comme Goodbye Stranger ou Bloody Well Right, Rick Davis, né en 1944 à Swindon, en Angleterre, est décédé à son domicile de Long Island aux États-Unis. Le chanteur et auteur-compositeur a combattu un myélome multiple pendant plus de 10 ans. En tant que co-auteur aux côtés de son partenaire Roger Hodgson, il était la voix et le pianiste derrière les chansons les plus emblématiques de Supertramp, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique rock, ajoute le groupe. On va se laisser avec une chanson de Supertramp où on entend la voix de Rick Davis. Et là-dessus, je vous dis merci d'avoir été là. On se retrouve demain.
you're bloody well right. You got a bloody right to say. Right, you're bloody well right. You know you got a right to say. You're bloody well right. You got a bloody right to say. Right. You're bloody well right. You know you got a right to say.